on rapporte une histoire abracadabrantesque.
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Je suis le bruit et la fureur.
Travaillez plus pour gagner plus.
Je vous demande de vous arrêter.
Il est là,
le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin.
T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs.
Pas content, pas content.
On s'énerve pour rien. Vous, vous énervez pour rien.
Pas content.
Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience.
Tout de suite, là.
Ah, ça a commencé.
Oui, ça a commencé.
L'émission a commencé.
On est à l'antenne depuis 5 minutes.
Bonjour à vous qui nous rejoignez dans cette émission. Bienvenue dans Bonjour Turbine depuis le studio de la Cité de Chantier à Colombelles en direct sur Station B. Et on est aussi sur Radio Pulse, à Alençon le mardi à 19h. Vous pouvez nous retrouver en replay sur toutes les plateformes et notamment sur audioblog.arte. arteradio.com. J'ai le grand plaisir d'animer cette émission avec toi, Alain. Bonjour Alain.
Salut Dorothée, tu vas bien ?
On s'est attelé à un sujet grave et sérieux aujourd'hui, Alain, c'est l'eau H2O. Et pour ça, on est allé vous chercher des experts de terrain pour parler pollution, tuyauterie, syndicat de gestion, privatisation, fuite, et plus poétiquement de notre relation à nous les Canets avec cette ressource qui nous entoure de toutes parts. Aujourd'hui, la météo est un peu caniculaire. On a bien choisi notre moment pour le thème de cette émission, n'est-ce pas Alain ?
Bah oui, et en plus, ils annoncent pas de pluie. Donc.
J'ai aussi l'immense plaisir d'accueillir David. Bonjour David.
Bonsoir Dorothée, bonsoir.
Et Thémis, bonjour Thémis, c'est ta première chronique dans Bonjour Turbine, bienvenue, ça va, pas trop stressé ?
Non, ça va, je suis très contente d'être à vos côtés.
Et coucou à Jonathan qui assure la technique dans le bocal.
Coucou !
Alain, je te donne la parole tout de suite puisque c'est toi qui as l'honneur d'introduire cette émission sur l'or bleu, comme on l'appelle, avec une CPV, une capsule pédagogique et véridique. Et cette question cruciale que se pose sûrement à cette heure notre ami Thomas qui est en vacances à Marseille.
En effet, salut Thomas, je vais vous parler de l'effet Ouzo. Vous allez me dire Kezako. L'effet Ouzo, ou encore louchissement ou émulsification, est la formation d'une émulsion d'aspect laiteux qui se produit lorsqu'on ajoute de l'eau à de l'ouzo ou à d'autres boissons anisées comme le pastis, l'oraki, l'arak, l'absinthe, etc. Pour plus de détails sur la science et la technique, je vous laisse aller sur le net parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Mais je voudrais quand même vous parler un peu de ça. Donc cette définition scientifique enlève un côté magique et mystérieux à l'apéro anisé. Donc moi je vais rester là-dessus. Et personnellement, je préfère la réplique devenue culte du film Le Pion de Christian Gion en 1978. Oui, vous n'étiez pas né. L'eau H2O, ce liquide douteux qui trouble le pastis. Je trouve ça beaucoup plus poétique. Avant de clore cette CPV, je me dois de bien préciser que pour déguster un pastis, il est de mise de respecter quelques principes à la marseillaise. La dose standard préconisée est de 2 centilitres de pastis, Ricard par exemple, pour 10 centilitres d'eau, c'est-à-dire une dose pour 5 d'eau. Vous adapterez à votre goût si vous l'aimez corsé ou léger. Ensuite, les classiques du gari. C'est 2 centilitres de pastis et 10 centilitres d'eau fraîche, plus 2 glaçons. À l'ancienne du garigar, l'eau très froide dans un verre glacé, puis ajout du pastis. Le flan ou garigari, c'est 2 centilitres de pastis pur. Et à la Marcel ou motherfucker, garigari, 4 centilitres de pastis, bu d'un trait pur. Les deux dernières sont conseillées en cas de gastro. C'est radical, mais ça arrache les papilles. Enfin, un conseil, évitez de servir le pastis à la parisienne, c'est-à-dire glaçon puis pastis et eau. Vous risquez de former des paillettes et d'altérer le goût de la boisson. C'est vrai que c'est pas très bon. Je termine, même s'il est difficile parfois d'en trouver au nord de Valence, pour moi, c'est le casa, le fameux casanis. Le pastis, c'est le casa. Le Henri Bardouin n'est pas mal, cependant le goût est vraiment particulier et en désespoir de cause, si vous ne trouvez pas autre chose, le Ricard.
Merci Alain, rendez-vous tout à l'heure pour l'apéro. Alors on le sait vaguement et sans certitude et sans consensus, mais on le sait, l'eau qu'on boit est polluée, avec ou sans pastis d'ailleurs. Et en revanche, ce qui est moins clair, c'est de savoir si notre santé est en danger ou non. David Saunier, il est assistant conseil aux collectivités dans la gestion de l'eau et l'assainissement. Il travaille à Colombelles et c'est notre expert aujourd'hui sur ces questions d'eau potable. On lui a posé cette première question, est-ce que l'eau qu'on boit est bonne ou non pour notre santé, sachant qu'elle est polluée ? Merci de nous accueillir dans votre bureau ici à Colombelles. En novembre 2023, on a retrouvé des résidus d'un pesticide interdit depuis 2020 dans l'eau à Caen. Et l'alerte a été alors donnée sur ce pesticide qui était interdit parce qu'il est très toxique, notamment pour la faune marine. Au bout de quelques jours, le syndicat d'eau du bassin cannais expliquait que la présence de ce sous-produit dans l'eau potable était un phénomène national et précisait aussi qu'aucune étude sur la potentielle dangerosité de ce métabolite, donc il s'appelle le métabolite de chlorothalonil, sur la santé humaine n'était vraiment prouvé. Et du coup, fin de l'histoire, voilà, l'eau est redevenue potable. Il y a eu une mini-crise pendant quelques jours et puis tout est redevenu à la normale. Sans se prononcer sur la dangerosité effectivement de ce résidu en question, puisque ce n'est pas votre métier, qu'est-ce qu'il faut penser de cette affaire et de la question de la qualité de l'eau? Comment on peut s'y retrouver par rapport à cette histoire? Est-ce que c'est emblématique ou est-ce que c'est extraordinaire?
Alors il y a plusieurs points. C'est emblématique de la qualité de l'eau en France parce que c'est dit partout dès que vous parlez de qualité d'eau que c'est l'élément le plus suivi au niveau qualité en France. Donc ça c'est une réalité. Après il faut bien voir il y a une distinction entre qualité et risque sanitaire. Il y a des normes de qualité qui sont définies selon les connaissances. Ce qui est intéressant sur le sujet pour avoir le plus de matière, c'est se référer aux écrits de l'ANSES. C'est l'ANSES qui l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui définit les normes. Et donc notamment sur ces composés de pesticides, le chlorothalonil, qui est apparu d'un coup parce qu'avant on n'avait pas les moyens de les mesurer dans l'eau. Maintenant, les techniques permettent de mesurer des plus petites molécules et donc ont permis de découvrir des nouveaux composés. Donc, à la découverte de ces composés, il y a eu, comme c'est contrôlé, il y a eu une alarme en disant « Attention, il y a des résidus de pesticides dans l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc ça a été le... Ensuite, ça a été transmis à l'ANSES. Et d'ailleurs, le chlorothalonil à deux formes de chlorothalonil, le R je ne sais plus quoi et le R je ne sais plus quoi. Et donc il y en a un qui a été défini comme pertinent en termes de suivi de qualité et un autre qui a été qualifié comme non pertinent. Alors je ne maîtrisais pas trop, j'ai regardé. En fait, l'ANSES, pour dire si c'est pertinent ou pas pertinent, se réfère à ses connaissances en toxicologie et par rapport à des doses, etc. Et donc, il y a certains endroits où la forme de chlorothalonil, pardon, excusez-moi, qui est devenu non pertinent. Donc, ça veut dire juste que dans les limites de qualité, on parle de limites de qualité et après, on parle de valeur maximum, sachant que ces limites de qualité... C'est de la toxicologie, donc c'est la dose pendant toute une durée de vie. Ce qui veut dire que quand on a une limite de qualité qui est dépassée, en l'occurrence là, pour certains éléments de pesticides, on a des limites dépassées, ça veut dire que l'eau n'est pas de bonne qualité, mais ne présente pas de risque sanitaire à court et moyen terme. C'est au long d'une vie qu'elle pourrait présenter un risque sanitaire sur la base des connaissances que peut avoir l'ANSES. Donc il faut voir que l'ANSES, elle est là pour protéger. Et donc en fait, je pense que quand on dit que l'eau, elle est de mauvaise qualité, ce n'est pas un risque sanitaire en tant que tel pour le consommateur. Mais par contre, c'est une information pour le consommateur pour savoir que cette eau, il faut faire quelque chose et qu'il faut la suivre. Et que la collectivité qui est responsable de cette qualité de l'eau doit mettre des choses en place. Et dès lors qu'il y a un warning, une limite de qualité qui est dépassée, au niveau agence régionale de la santé, c'est suivi, et donc la collectivité ne peut pas rester sans rien faire. Donc il peut y avoir des régimes dérogatoires qui sont mis, mais il y a des plans d'action qui sont imposés pour pouvoir une reconquête de la qualité de l'eau. Donc c'est des traitements. En l'occurrence, ce qui a été, comme c'était un nouvel élément qui n'était pas mesuré avant, quand on a commencé à les trouver, on ne savait pas les traiter. Le traitement des pesticides, c'est du charbon actif, ça s'est maîtrisé, mais là, sauf que c'est des dégradés de pesticides, donc des plus petites molécules, qui nécessitent un traitement plus fin. Et donc là, il y a des tests qui sont faits pour pouvoir le faire, et puis après, c'est des investissements pour mettre en place ce traitement.
Voilà, sujet assez compliqué. On retrouvera David pour parler des réseaux d'eau, notamment comment ça se passe à Caen. Mais avant ça, on a la joie d'accueillir Thémis pour ta première émission. Tu nous parles de gestion de l'eau, toi aussi, et tu t'es interrogé sur la question de la privatisation. Qu'est-ce que ça signifie de privatiser une ressource naturelle comme l'eau ?
Oui, alors l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est ce qu'a dit un grand sage, Jean-Claude Van Damme, il y a 15 ans. Bon, aujourd'hui, on aurait tendance à dire qu'en France, l'accès à l'eau est toujours garanti, mais à quel prix ? Aujourd'hui, j'ouvre un gros dossier qui mériterait une émission entière à lui tout seul, j'ai nommé la privatisation de l'eau. Alors, de quoi on parle ? Pour poser les bases, il semble bon de rappeler que l'accès à l'eau a été défini en 2010 par l'ONU comme un droit humain fondamental. Cette denrée des plus vitales se trouve au cœur de ce que certains et certaines nomment une réelle guerre, une guerre de l'eau, alimentée par, c'est une vieille rengaine, l'appât du profit. Car oui, l'eau potable est soumise à de véritables défis de gestion et de financement des infrastructures, et pour certaines villes, déléguer ce service à des entreprises privées, c'est augmenter sa qualité, moderniser les réseaux et bénéficier d'une réelle expertise technologique et économique. Quand une commune ou une intercom décide de gérer elle-même ses services, avec ses propres moyens et salariés, on dit qu'elle a une gestion en régie ou gestion directe. Si elle est amenée à déléguer une partie ou la totalité de ses services via un contrat avec une entreprise, c'est ce qu'on appelle une délégation de services publics, DSP pour les intimes. Je ne vais pas détailler ici les différents types de DSP, mais c'est à ce niveau que les fameux Veolia ou Suez arrivent. Au siècle dernier, l'innovation et l'efficacité promises par le privé a conquis beaucoup de pays. L'Empire, Veolia et Suez, entre autres, s'est étendu à ce moment-là. Et bilan après plusieurs années de gouvernance privée. Hausse des prix, manque de transparence dans les contrôles sanitaires et peu d'informations sur l'impact des écosystèmes. Et oui, surprise, les intérêts du marché sont rarement les mêmes que ceux de la société civile, encore moins ceux de la planète. Rajoutez à ça les différentes crises économiques et ça nous donne une gestion du service sérieusement bonne à reconsidérer. Pour la France, il y avait de quoi faire, car c'est le pays ayant eu le plus recours au privé dans ce domaine. Nouvelle dynamique donc, on repasse du privé au public. On parle de remunicipalisation. Paris a été une des premières villes à se lancer avec sa société Eau de Paris qui prend le relais en 2009. Depuis, bilan. Au-delà des prix qui ont drastiquement chuté, on observe dans les politiques menées une plus grande transparence, une gouvernance démocratique avec une commission citoyenne, un soutien aux agriculteurs et aux ménages les plus précaires, etc. En affirmant l'importance d'un tel service public et de ses valeurs, le service municipal a même obtenu en 2017 le prix du service public décerné par les Nations Unies. Des villes plus petites ont suivi le mouvement de remunicipalisation comme Rennes ou Montpellier. Assez récemment, en 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu que le droit à l'eau potable découle du droit à un logement décent, lui-même rattaché au principe de dignité humaine. Ce socle juridique a été instauré afin de contester les politiques de privatisation devant les tribunaux. Et on peut aussi retrouver de tels dispositifs au niveau européen et international avec une bonne trentaine de législations. Alors ici, il n'est pas question d'idéaliser la situation de l'eau en France. La société Eau de Paris, pour reprendre notre exemple, est toujours enclavée par le CEDIF, le syndicat des eaux d'Île-de-France, plus grand service d'eau potable en France et plus important contrat Veolia au monde. Car oui, ces entreprises privées ont toujours de beaux jours devant elles, même si leur arrivée suscite maintenant bien souvent une levée de boucliers de la part des syndicats et des citoyens et citoyennes, elles ont su recalibrer leur discours et leur stratégie. C'est comme ça que des villes comme Marseille ou Toulouse ont renouvelé leur contrat de délégation, malgré une forte résistance citoyenne face à une entreprise leur proposant des prix assez incroyables, parfois réduits de 25%. Mais peut-être qu'en fait, il ne s'agit pas d'avoir une vision binaire en opposant public et privé, État et marché. Plusieurs réflexions tendent à remettre au goût du jour le concept de bien commun déjà existant avant l'accaparement du service par le privé. Il s'agit plutôt d'une réflexion hybride où y repenser la gouvernance dans ce qui appartient au local ou au national, avec pour but toujours la préservation de la ressource et l'équité à son accès, tout en garantissant une bonne qualité de service avec des moyens technologiques mobilisés. Pour parler local, j'ai voulu savoir ce qu'il en est sur notre territoire cannais. Car, à vrai dire, en toute transparence, je n'avais aucune idée de vers qui mon argent partait. J'ai cru à une bonne surprise en voyant Hauts-de-Normandie s'afficher en pensant retrouver ici la même gouvernance que Hauts-de-Paris. Mais non, il s'agit en réalité d'une filiale de Suez. Le reste de la gestion du territoire calvadosien est en majorité délégué à Sorre, troisième DSP après Veolia et Suez. Donc pas de très bons élèves en ce qui concerne la remunicipalisation. C'est déjà la fin de ma chronique et je n'ai même pas évoqué tout le marché de l'eau en bouteille, autre énorme enjeu encore qui piétine aussi sur l'accès à l'eau potable. Nombre d'habitantes et d'habitants voient les sources de leur territoire accaparées par Nestlé Waters par exemple pour Perrier-Vittel ou par Danone pour Evian, Badois ou encore Volvic. Assèchement des nappes souterraines, dérèglement des écosystèmes, non-respect de la loi de 2006 sur la hiérarchie des usages de l'eau, il y aurait de quoi faire une toute nouvelle émission, alors la suite au prochain épisode. Peut-être Jean-Claude Van Damme avait finalement raison et qu'il nous reste maintenant 5 ans seulement pour repenser notre gestion de l'eau avant que son accès ne s'évapore entièrement.
Merci beaucoup Thémis. Dans la continuité de ce dont tu nous as parlé, on va aussi faire de la pédagogie avec David Saunier. Il nous explique justement comment ça fonctionne concrètement pour chacun d'entre nous de recevoir de l'eau à notre robinet à partir du captage de celle-ci jusqu'à son usage domestique. Il y a plein d'infos, écoutez bien, je vais quizer après.
J'ai pas regardé sur quand exactement, mais en France c'est 65% de l'eau c'est de provenance souterraine et 35% de provenance haute surface qu'on appelle, donc des rivières. Sur Caen, on a les deux. Il y a de l'eau qui est pompée dans l'Orne et ça doit être à peu près ça. Il y a une quarantaine de forages et des sources autrement.
Et alors comment elle nous arrive au robinet? C'est quoi son cheminement?
Si on prend le schéma de l'eau, il y a la ressource. Donc c'est ce que je viens de dire. La ressource, c'est de l'eau souterraine ou c'est de l'eau de rivière. Donc c'est de l'eau brute. Cette eau, il faut la prélever. Donc il y a un pompage ou il y a un captage pour prélever l'eau. Ensuite, il faut la traiter. Donc là, on la traite dans ce qu'on appelle une usine de production ou une usine de traitement. Donc une eau de nappe, surtout si c'est des nappes très profondes, en termes de traitement, c'est de l'eau qui est potable directement. Elle n'a pas été du tout polluée. Elle est potable et donc on injecte quand même du chlore dedans, juste pour garder une qualité bactériologique, parce que le chlore reste tout du long du réseau. Il faut savoir que l'eau, entre le moment où elle est prélevée et injectée dans le réseau jusqu'à consommateur, le plus long, c'est 4 ou 5 jours dans les tuyaux. Dans des réseaux ruraux, là où il y a très peu de tirage, en fait. Ce qui commence à être la limite. Donc ça, c'est suivi aussi. On est capable, via des modélisations de réseau, de suivre la durée de vie de l'eau dans les réseaux. Pour les eaux de surface ou des eaux de nappe qui sont plus superficielles et donc qui peuvent recevoir des nitrates, des pesticides, il y a du traitement qui est fait. Donc là, c'est du traitement soit biologique, soit physico-chimique. On va aller chercher de plus en plus petites matières, jusque de la matière dissoute, où là, on va peut-être injecter, etc., des réactifs pour pouvoir faire précipiter la pollution et obtenir de l'eau de qualité.
Une question, ces usines, elles sont, alors pour parler de proches de chez nous, elles sont là, à Caen notamment, ou à côté de Caen, c'est des usines donc de proximité, quoi. L'eau n'est pas envoyée loin, puis ramenée, enfin, ça se passe en général dans le bassin.
Ouais, en fait, il y a des usines. Alors, quand on parle de l'eau de l'Orne, on parle de l'usine de l'eau de l'Orne, parce que d'une part, ça, vu le débit de l'Orne, on est en mesure, alors j'ai pas les chiffres, de capter un volume journalier important. Et donc, il faut le traiter. Et donc, on parle réellement d'usine. On le voit, le bâtiment, quand on passe sur la voie verte. On voit le bâtiment bleu, là, en allant vers du côté de Louvigny. Mais sinon, il y a aussi, à Luc-sur-Mer, il y a un forage avec... Il y a le forage, là, qui est en fait une parcelle avec un tout petit bâtiment. Et ça, c'est une unité de traitement. Parce que l'eau est pompée dans le forage et juste désinfectée. Donc ça, on les voit pas. Quand on n'a pas l'habitude, on les voit pas. Mais sinon, ils sont partout. Par contre, la question est intéressante parce que justement, des petits villages qui étaient alimentés par une source ou un petit forage, d'une part, il peut y avoir des problèmes de capacité en termes de quantité de ce forage. Le forage, il donne plus assez. Et donc, ou à un problème de qualité, il arrive que des forages, pour X raisons, il y a des nitrates, des pesticides, ça coûte trop cher de traiter l'eau. Et donc, dans ces cas-là, on réfléchit à amener l'eau de plus loin et donc de tirer des tuyaux pour aller un peu plus loin. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros sujet en termes de... c'est un sujet, la sécurisation de l'eau, c'est-à-dire comment on fait pour pouvoir assurer l'alimentation de l'eau à tout le monde. Et on essaye de faire des schémas au niveau départementaux, au niveau de Caen-la-Mer, de dire, il y a des études qui sont faites pour dire, si j'ai un problème de qualité là, est-ce que je peux ramener de l'eau par ici? Et si j'ai un problème de quantité d'eau ici, comment je peux faire? Tirer des linéaires de canalisation, ça a un coût.
Voilà, ce qui est certain, c'est qu'à Caen, on manque jamais d'eau, sauf en ce moment. Comme l'a bien remarqué le plus célèbre des Caennais, Aurel San, dans son titre hommage à la ville, qui s'appelle La pluie et qui chante avec un Belge que vous allez sûrement reconnaître.
Tu viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place, une lumière claire dans le monospace. Je freestyle est dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Chez moi, y'a du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau.
Vous avez reconnu celui qui chante avec Orelsan, Alain, Stromae, David, bon. Plastic Bertrand, non, Stromae, ouais, bravo Alain. On retrouve tout de suite pour notre dernier entretien avec lui, David Saunier, donc, qui conseille les collectivités locales sur la gestion de l'eau et de l'assainissement, avec ses bons tuyaux. En l'occurrence, on va plutôt parler de ceux qui ne fonctionnent pas très bien, puisqu'on va parler de fuite depuis qu'il y a des canicules en France, sauf à Caen. On se dit qu'il faut économiser l'eau, et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre réseau d'eau est une passoire et que 20% de l'eau fuyait par nos tuyaux. J'ai posé la question à David pour savoir si c'était vraiment vrai.
Oui, c'est vrai. Alors, on perd énormément d'eau. Alors, c'est très inégal sur le territoire. Il y a des endroits où on est à 90% de rendement. Donc quand on parle d'un rendement de réseau, c'est le ratio entre ce qu'on injecte dans le réseau à partir de la production et ce qui est consommé par le consommateur. Et donc le delta, c'est les fuites. La moyenne nationale, c'est autour de 80%, c'est-à-dire qu'il y a 20% d'eau qui retourne dans la terre finalement. Donc, mais elle a été traitée, elle a été prélevée et mise dans un autre milieu. Donc c'est embêtant. La moyenne d'âge des réseaux d'eau potable, on doit être à plus de 60% des réseaux ont plus de 40 ans. Sachant que les plus vieux réseaux ont maintenant, alors les très très vieux ont plus de 100 ans, mais une grosse partie des réseaux ont 70 ans aujourd'hui. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors l'exploitation, on doit réparer les fuites, sauf qu'il y a des fuites qui apparaissent. Si vous avez déjà vu une fuite sur la route, vous dites, tiens, il y a une fuite, ça soulève la route, par la pression de l'eau, ça soulève. Donc là, on appelle qui de droit, ils viennent réparer la fuite, c'est simple. Mais il y a aussi des fuites qui, en fonction du sol, si c'est des sols calcaires avec des failles, il peut arriver que l'eau ne ressorte pas et donc que l'eau coule mais n'apparaisse pas.
Vous disiez à peu près 60 ans d'âge. C'est quoi normalement l'âge idéal pour un réseau, pour qu'il soit optimum, pour qu'il ne fuit pas?
Là, aujourd'hui, on est sur les premiers réseaux. Donc des réseaux, il y a des réseaux en PVC, des réseaux en fonte et des réseaux maintenant en polyéthylène. Les réseaux en polyéthylène sont moins vieux, donc ils sont encore dans leur cycle de vie. Les réseaux PVC, on a des réseaux PVC qui ont maintenant 70 ans, 80 ans. Il y en a des plus récents parce qu'avec le développement, voilà. Et des réseaux fonte. Alors, il y a eu la fonte grise, puis maintenant de la fonte ductile qui est un peu plus solide. Donc, les réseaux fonte, on dit que c'est 100 ans ou 80 ans. Les réseaux PVC, c'est 60, 70 ans. Donc, on arrive en fin de vie. Il faut savoir que sur le territoire français, en réseau d'eau potable, il y a 995 000 km. À l'échelle du bassin de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, c'est 65 000 km de réseau d'eau et 19 000 km d'eau usée. Et aujourd'hui, le renouvellement de ce patrimoine, on renouvelle un peu moins de 0,5% de réseau par an. Ce qui fait qu'on renouvelle à plus de 200 ans. Quand je viens de dire que la durée de vie estimée de ces tuyaux, c'est entre 70 et 100 ans. Ce qui veut dire qu'il faudrait à minima doubler ce que l'on renouvelle actuellement, sachant qu'encore une fois, c'est très inégal en fonction des collectivités. Il y a des collectivités qui font des travaux, il y en a d'autres qui font moins. Mais ça vient aussi qu'une collectivité, un service d'eau urbain a plus d'abonnés sur un kilomètre de canalisation qu'un service d'eau rural. Et donc le service d'eau rural a forcément moins de recettes parce que moins de consommation et donc a moins de moyens à prix égal de renouveler du réseau.
Voilà, alors combien de kilomètres de réseau d'eau à Caen, Alain ?
C'est à 6 chiffres. À Caen, non, c'est déjà été national. Beaucoup.
Ouais, beaucoup. Bah, pour l'appel, je te laisse la parole. Avant d'accueillir notre deuxième invité, Bertrand Morvillier, pour ta seconde CPV qui fait froid dans le dos.
Froid, je ne sais pas, mais vous vous êtes certainement demandé ce qu'était cette grande construction type centrale nucléaire auprès de la cité de chantier. Cheminée, base secrète aéronautique, portail extraterrestre. Et quel rapport avec l'eau ? Je vous explique rapidement. Alors pour plus de détails techniques, rendez-vous sur le net, toujours pareil, parce que sinon j'y passe la soirée. Sur le site où nous nous trouvons, jusqu'en novembre 1993, il était une usine sidérurgique, la SMN. L'usine produisait sa propre électricité au moyen de turbines alimentées par l'eau chauffée par les hauts fourneaux. Afin d'être réutilisée ou évacuée, il était indispensable de refroidir l'eau. Trois petits réfrigérants qui ont été détruits et notre mastodonte voisin étaient utilisés à cet effet. Alors là, c'est technique. Avec son profil hyperboloïde, cette tour cylindrique de 56 mètres de hauteur, ouverte en partie haute et en partie basse, se comportait comme une cheminée. L'eau chaude, pulvérisée en partie haute, tombait en pluie dans le courant d'air circulant dans la tour, la refroidissant ainsi. Cela provoquait un panache de vapeur d'eau et non pas de la fumée, comme le croyaient les habitants de Caen et de son voisinage. Pas de pollution, de l'eau. Et en termes de pollution, les autres émanations du site étaient bien plus puissants, à la fois pour l'air et pour le sol, et le sol est toujours dans un état déplorable. Le chaudron, comme l'avaient surnommé les ouvriers, a été construit en 1952. Aujourd'hui, la structure de béton se détériore inexorablement. Si la partie intérieure semble solide, c'est la structure extérieure qui se dégrade dangereusement. Des études sont menées actuellement pour juger de l'état de la structure et du coût représentant la sauvegarde de cet emblème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année qui passe, le coût augmente. Et il y a des élus qui ont la volonté de garder comme emblème ce réfrigérant. Donc, c'est un peu le chat qui se mord la queue. Voilà.
Merci, Alain. C'est le moment d'accueillir notre deuxième invité. Bonjour Bertrand Morvillier.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien.
Tu es, je ne sais plus exactement le terme, coordinateur directeur du Centre permanent d'initiative pour l'environnement, CPIE.
J'aime bien qu'on me qualifie de directeur, mais je ne suis pas, directeur. Non, on peut dire je ne vais pas dire le terme en entier, mais je suis médiateur quoi.
Médiateur là-bas.
Scientifique.
Voilà. Médiateur scientifique au CPIE de la Vallée de l'Orne.
Exactement.
Ok. En deux mots, c'est quoi le CPIE pour ceux qui ne connaissent pas encore ?
Pas encore. Donc, c'est le Centre permanent d'initiative pour l'environnement donc de la Vallée de l'Orne. Donc, c'est une structure qui fait de la sensibilisation, de la médiation, du travail auprès des collectivités, justement sur toutes les problématiques d'environnement, de patrimoine aussi un petit peu, mais surtout tout ce qui est lié à l'environnement.
Donc sur le lié à l'Orne dans le sens fleuve.
Ouais. Oui, oui, tout à fait.
Vous allez jusqu'où ?
On va de l'estuaire, une partie du littoral calvadosien sur lequel on travaille beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à l'eau. Et puis c'est dans un lieu qui est quand même un enjeu important. Et puis après, toute la vallée jusqu'à Clécy, en gros.
Alors on t'a invité, Bertrand, parce que le CPIE prépare une exposition qui aura lieu à partir du 27 juin à la médiathèque Alexis de Tocqueville dans le cadre du millénaire et qui s'intitule joliment « Quand, à quoi tu penses ?» avec un jeu de mots sur « à quoi », le terme latin qui signifie « eau ». Elle est sous-titrée « Une ville aquatique sur le divan ». Alors c'est quoi l'idée de départ de cette expo ?
Alors l'idée de cette expo, c'est une marotte que j'ai depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, Caen, c'est une ville qui a beaucoup de mal à se réfléchir dans son histoire, dans ce qu'elle est vraiment. Et en fait, Caen, c'est une ville qui est vraiment construite sur l'eau, en fait, et qui est liée à l'eau depuis sa création. Donc là, on sait maintenant qu'on est autour des 1000 ans. Si vous ne le savez pas, c'est que vous n'êtes pas passé par Caen, que vous n'écoutez pas la radio, que vous ne lisez pas les journaux.
Vous n'allez pas dans la rue.
Peut-être que vous êtes même sur une autre planète. Et donc, c'est une ville qui est vraiment marquée par la présence de l'eau. Et puis progressivement, pour tout un tas de raisons qu'on expliquera dans l'exposition, et que je pourrais expliquer ici si on me pose la question.
Tout à fait, je pense qu'on va te poser la question.
Voilà, qui a essayé d'évacuer, si je puis me permettre ce mot-là, tout à fait sa dimension aquatique, maritime, portuaire, tout ce qui est lié à l'eau, en fait. Et donc, comme il y a eu beaucoup d'expositions qui ont lieu maintenant sur ce thème, parce qu'il y a peut-être un réveil, donc c'est très bien, on a fini par avoir... Parce que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on travaille un petit peu là-dessus. Et donc, on a essayé de trouver un angle d'attaque un petit peu humoristique pour évoquer cette chose-là.
Donc, un thème un peu psychanalytique.
Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas pour vous faire peur ni faire peur à tout le monde, parce que ce serait plutôt humoristique, c'est-à-dire de partir comme si la ville de Caen avait été un personnage et que ce personnage avait des névroses, hein, des problèmes d'identité, et que donc elle évoquait comme ça, au travers de toute une série de petites séances, son rapport compliqué avec sa mère, MER, et avec l'eau. Donc on joue beaucoup sur ce genre de choses. Voilà.
Alors qui sera le psychanalyste ?
Alors c'est un psychanalyste. Alors là, on a fait facile, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots sur Caen. Caen, c'est facile. Ce n'est pas forcément un très joli nom. Mais par contre, c'est un nom qui est très marrant parce qu'on peut permettre ce qu'on veut. Donc il y a un docteur Lacan, hein, Lacan, A-E-A-E-N, qui va psychanalyser notre ville de Caen avec tous ses problèmes.
Concrètement, à quoi va ressembler l'exposition, du coup, par rapport à tout ce que tu nous as dit, qu'on visualise un peu
Alors, on travaille avec un dessinateur de bande dessinée, donc Maxime Béloche, qui est un canet, et qui travaille beaucoup, qui a une patte assez intéressante sur le dessin de la ville, et qui va mettre en scène un petit peu le personnage Ville de Caen et le personnage du professeur qui sera là pour lui passer la question. Et donc, ça sera, il y aura... Alors, comme on est à la bibliothèque Alexis de Tocqueville, ils ont énormément de fonds documentaires. Et donc, on aurait pu faire une exposition purement du fonds documentaire avec toutes les images d'inondations, de cours d'eau oubliés, de tout ça. Et donc, on va servir de ce fonds qui est super intéressant parce que s'il y a vraiment des choses que certaines choses sont connues, d'autres le sont beaucoup moins. Et donc, de faire passer tout ce fonds graphique très intéressant qui soit, présenté par ces personnages et donc qu'on soit sur quelque chose d'assez léger.
Et il y a donc un travail avec les archives de la ville qui viennent d'où, qui sont quoi matériellement en fait ?
Alors il y a beaucoup, parce qu'en fait quand on regarde au fond, il y a ce qu'on appelle le fonds normand à la bibliothèque municipale. Et donc le fonds normand a collecté depuis des siècles peut-être, je ne sais pas depuis quand ça date, énormément d'ouvrages, tout ça. Mais ils ont un fonds iconographique qui est très important. Et donc ils ont un fonds d'images. Qui sont des gravures, qui sont des dessins, qui sont des photos qui ont été faites grosso modo depuis le 18e siècle, hein, c'est le 18e jusqu'à maintenant. Et donc on a énormément de représentations de notre ville et l'idée c'est un petit peu de montrer comment les Canets vivaient et ont vécu et se sont, se sont accommodés, entre guillemets, de cette présence, cette omniprésence de l'eau qu'il y avait dans cette ville, et de voir comment nous, on s'en est détaché, que peut-être, du fait d'un certain nombre d'événements que tout le monde connaît, l'eau se rappelle à nous. En fait, il y a un retour du refoulé. c'est-à-dire, le retour du refoulé le plus clair, c'est le fait de la presqu'île, par exemple. C'est-à-dire qu'on a voulu absolument construire un quartier dans un endroit qu'on savait. Parce que là, ce n'est pas des mystères. On savait, l'université de Caen, il y a le GIEC Normand, il y a des gens qui travaillent.
La DDT, je ne sais plus comment, oui, les services de l'État.
Les services
savez,
de l'ADREAL.
L'ADREAL, voilà.
Il y avait tout un tas de documents prospectifs qui n'étaient pas du tout des documents forcément militants, des documents techniques, administratifs et autres.
Pour dire quoi ?
Eh ben, qui disait tout simplement que à moyen terme, le lieu serait soumis au fait que s'il y a une élévation du niveau de la mer de 1 mètre, comme on est sur une nappe, on est sur de l'eau, et donc cette eau, elle est en contact avec l'eau de mer qui rentre jusqu'à Caen, parce que Caen est une ville de bord de mer, pareil, les Canets ne le savent pas. Alors que oui, il suffit d'aller au barrage de Montalivet, et puis on voit la marée haute, la marée basse. Donc il y a vraiment un balancement des marées visible. Et donc tous ces documents ont été un peu pris à la légère, pas à la légère, mais comme s'ils n'existaient pas.
C'est voilà. Du déni.
Du déni. Voilà, on est du tout déni. À fait. On est dans le déni. Et donc là, ils ont nos élus ont été rattrapés un peu par la par le réel en fait. Par le...
Et tu peux refaire la chronologie. Donc il y a eu une première salve de construction, dont la médiathèque d'ailleurs.
Ouais.
Avec Tocqueville et quelques immeubles là qu'on voit derrière.
Ouais.
Et il y avait d'autres projets qui se sont arrêtés.
Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait donc, il y a eu une première, c'est un très vieux projet canet qui date du début des années 2000. Donc c'était sous le mandat maintenant peut-être un peu oublié de Brigitte Le Breton.
Et David donc, se souvient.
Donc voilà, les canets se souviennent, les vieux canets, j'ai envie de dire. Et donc il y avait donc ce projet parce qu'on est sur une zone, une ancienne zone industrielle. Et Caen, qui n'est pas une ville très, très en avance forcément toujours, il y avait tout un mouvement dans les villes d'Europe de reconquérir les zones industrielles portuaires. Il y a eu ça à Londres avec les docks, il y a eu ça à Barcelone, etc. etc. Et donc à Caen, s'est dit à un moment, on va faire pareil. Et donc on a fait ça à la Canet assez lentement. Et donc il y a eu un premier projet qui a abouti aux rives de l'Orne. Et puis après, il y a eu un projet vraiment urbain qui a été sous le mandat de Monsieur Duron, pour les gens qui s'en rappellent.
Oui, ça acquiesce aussi.
Voilà. Pardon ?
Non, je disais qu'Alain acquiesçait
ouais,
aussi.
Ouais, ouais, ouais. Et donc, il a abouti à la bibliothèque qu'on connaît aujourd'hui, qui n'a pas pu inaugurer, vu que c'est après, on a eu le maire, pas actuel, mais juste avant, donc Monsieur Bruno. Et donc là, pour la bibliothèque, on était sur un. Il y a eu le déni complet, c'est-à-dire qu'on a construit une bibliothèque qui avait du papier quand même. Et on a mis les réserves dans sous-sol. Donc,
d'accord.
Oui. Alors c'est un bateau en fait. C'est la structure de la bibliothèque, c'est comme un bateau. Ils ont fait une coque, voilà.
Sauf pour protéger les documents, ouais, en l'occurrence.
C'est-à-dire que les documents, ils sont en dessous du niveau de la nappe.
De la nappe. Mais voilà. Ils peuvent flotter. S'il y a un souci, pas de problème.
Alors, c'est pas prévu comme ça. Mais là où ce qui n'est pas forcément... Alors, moi, je ne suis pas du tout physicien. Mais normalement, quand on augmente la présence de l'eau, y a le poussée d'Archimède. Donc, peut-être que la bibliothèque va se mettre à se lever. Je ne sais pas. Je ne veux pas faire de prédiction. Mais disons que le système de la bibliothèque, c'est d'être une coque dans l'eau, en fait. Et puis après, donc, il y a tout un projet qui a été développé et qui a été réalisé au cours du mandat de premier mandat de Joël Bruno, et dans un déni complet, c'est-à-dire on a construit sachant que c'était un peu limite, mais on y va quand même, allons-y, ta ta ta. Et puis la deuxième phase, donc qui est sur tout l'espace qui se trouve à côté du ce qu'on appelle le nouveau bassin. Donc là, c'est là où il y a les travaux en ce moment, là où il y a les grues. Je ne sais pas où il y a les grues qui ont été refaites, là, qui sont très jolies, là, les grues un peu dorées. Il faut aller voir ça.
Il y a le club de voile et c'est là où il y avait le charbon avant.
Voilà.
Charbon, il y a le club de voile.
Du charbon jusqu'à ce qui s'appelait avant Yacht Industry, qui était tout le grand bassin qui se trouve là, qui s'appelle le nouveau bassin.
Et donc derrière le tribunal, là-bas
Oui, tout à fait. Ouais, la nave alcanaise et puis tout ce qui va vers le nord, vers le viaduc de Calix. Et donc cet endroit-là, c'était vraiment un projet d'urbanisation de la ville, de créer quasiment un deuxième centre-ville, en fait, le centre-ville du 21e siècle.
Excuse-moi de t'interrompre. On avait fait une émission spéciale, Bonjour Turbine, où l'adjoint au maire était venu nous présenter ce projet d'éco-quartier. Qui nous avait vendu, on avait aimé. Mais...
Comme un super projet.
Mais oui. Le projet était beau.
Le problème de l'eau,
ils ont effectivement sous-estimé le problème de l'eau. Sinon, tout ce qui était hors d'eau, c'était génial. Par contre, il y avait vraiment des choses nouvelles, quoi. Mais il y avait une maquette qui était au pavillon qui montrait bien le truc. Mmh. S'il n'y avait pas eu ce problème de montée supérieure à ce qui était prévu, c'est vrai que ça faisait un quartier qui était intelligent, quoi, je dirais. Mmh.
Mais c'est drôle qu'on ait juste oublié ce qui nous entoure, c'est-à-dire l'eau, quoi.
Voilà, et donc ça, c'est très cané, parce que ça, c'est un peu l'illustration de notre propos. C'est-à-dire que jusqu'au bout, on a fait comme si elle n'était pas là.
Alors pour finir avec ça, au programme aussi, il y a une psychanalyse urbaine avec un vrai psychanalyste urbain qui s'appelle. Alors qu'il y a une vraie personne qui fait de la psychanalyse urbaine, on en a parlé avant cette émission, mais j'ai oublié son nom.
Moi aussi.
Qui vient de Lille et qui fait des psychanalyses urbaines.
Ouais. Il a une structure qui s'appelle l'ANPU.
Et comment ça fonctionne ça, les psychanalyses urbaines?
Alors c'est parodique, hein.
C'est pas
parce que le sujet camp est assez dur à trouver dans la nature. Il est forcément diffus. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va faire un petit peu une enquête de picorer des micro-trottoirs, des choses comme ça. Et puis, avec toute la matière qu'il arrive à avoir, à la fois des élus et parfois de leur discours un peu abscons, des gens qui réagissent avec leur spontanéité, le ressenti que lui il a, en fait, il monte une petite conférence où il analyse en fait les névroses de telle ou telle cité. Donc là, quand on va passer sur le divan.
Donc il y aura une ou plusieurs conférences là-dessus pendant l'expo.
À la fin de l'exposition, ça sera à l'automne. Donc je ne sais pas encore, j'ai plus les dates, mais voilà.
Regarder tout ça. On va continuer à parler d'histoire d'eau après avec toi, Bertrand. Mais avant, on écoute une chanson, un clin d'œil à notre premier invité, David Saunier, et à la pollution de l'eau qui affecte plus que nous les animaux marins. C'est La Baleine Bleue de Steve Waring.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, H2O. Oh oh oh, H2O. Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses.
Beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh
H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh. Oh H2O, oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé du détergent, elle a trouvé du détergent.
Elle a trouvé du détergent,
du détergent.
Beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O.
Elle a trouvé un pétrolier, elle a trouvé un pétrolier.
Elle a trouvé un pétrolier.
Un pétrolier.
Un pétrolier.
Du détergent.
Du détergent.
Beaucoup de choses.
Mais pas de l'eau.
Oh H2O.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O.
Elle a trouvé du DDT, elle a trouvé du DDT.
Du DDT,
un pétrolier,
du détergent,
beaucoup de choses.
Mais pas de l'eau.
Oh H2O.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux.
Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh.
C'était Steve Waring. David, bah, je te passe la balle.
Oui. Alors, avant de commencer la chronique, je me demande de combien de fois ils ont dit OH2O.
Dans la chanson. Ah, j'ai pas compté.
Dans l'univers infernal des super-héros, aux super-pouvoirs, vous connaissez Superman, Catwoman, Spider-Man ou encore Thomann, l'homme qui créa Bonjour Turbine. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter Waterman, l'homme liquide constitué à 90% d'eau pure et de sels minéraux dissous. L'eau du corps de Waterman est transparente, fluide, insipide et buvable, mais périodiquement polluée. En ce qui concerne l'origine de Waterman, sa source est incertaine. On pense tout de même qu'il serait né au Mont Gerbier de Jonc, comme la Loire et Michel Polnareff. Finalement, son origine n'est pas en soi une fin, car Waterman est un sauveur. Si vous croisez un jour Waterman, il se peut que vous soyez surpris par sa petite tête bleue transparente en forme de goutte d'eau de vie ou de goutte de pluie selon votre angle de observation. Son gros corps forme une barrique glougloute, dégage une faible odeur qui rappelle d'assez loin le calva du pays d'Auge. Cependant, ses jambes d'allumette ont le mérite de supporter tous les ectolithes de rosée absorbés par des pattes d'abeilles pompiers. Quels sont ses super pouvoirs? Ils sont nombreux. Ils repèrent à des kilomètres les vers qui ne contiennent que du pastite et aussi vite que l'éclair, ils déversent la quantité exacte d'eau pour que tous les jacquis de France et de Navarre puissent boire un petit coup. C'est un héros inépuisable et pacifique, mais qui trouble quand même par addition dans certains liquides à boire avec modération. Évitons aussi l'abus inverse, la potomanie, car l'obus éclate. Parmi les super-pouvoirs de Waterman, il faut citer donc l'épanchement de la soif, l'extension du feu, l'abreuvage des chameaux du désert, le transport joyeux par voie maritime, et on déplore la crue, le naufrage tragique et sa conséquence, l'échouage. C'est donc un héros ambivalent. Le lavage et l'inondage sont les deux mamelles de Waterman. L'ami de Waterman est le capitaine Flamme. Les extrêmes s'attirent, c'est bien connu. Quant à ses ennemis, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme disent les électeurs du pape, les ennemis de Waterman sont donc les feux de forêt, les bandits en fuite, à mater et à colmater, les canicules, les bois sans soif, les bénitiers vides, les abreuvoirs desséchés, les arroseurs arrosés, et tous ceux qui, pour un oui ou pour un non, ouvrent les vannes en faisant des vannes alors qu'il ferait mieux de la fermer. Waterman est donc malgré tout vital, c'est un héros d'utilité publique. Et comme on dit par chez nous, bonjour Turbine, Waterman, ramène-toi car il nous faut de l'eau pour faire tourner les turbines.
Merci David. On parle de l'exposition qui aura lieu à la bibliothèque Alexis de Tocqueville du 27 juin au 2 novembre, concoctée par le CPIE, qui est avec nous en la personne de Bertrand Morvillier. Bertrand, tu disais aujourd'hui l'eau a quasiment disparu de la ville, sinon des bras de l'Orne un peu enfermés dans du béton. Tu peux nous décrire un peu comment cette eau elle s'est asséchée au fil des ans? À quoi ressemblait Caen avant qu'on assèche justement tous ces cours d'eau, tous ces peut-être marais, et pourquoi ces décisions elles ont été prises? On peut comprendre qu'il y a des questions de santé publique, mais à ce point-là, pourquoi?
Alors, on est toujours dans le déni parce qu'on n'a pas asséché du tout. L'eau, elle est toujours là, mais elle est toujours présente. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la ville qui est toujours construite, toute la partie de ce qu'on appelle l'île Saint-Jean, pour nous faire penser à quelque chose, et est constituée au-delà des dépôts qu'il y a au-dessus, des dépôts artificiels qui sont liés notamment aux destructions de la guerre. Mais sinon, quand on est en dessous, on a exactement le même environnement que dans la prairie ou sur la presqu'île. C'est-à-dire qu'il y a
tout. Donc c'était recouvert finalement.
Ça a été en partie recouvert, oui. Ça a été en partie recouvert. Justement, après la guerre, on a profité, entre guillemets, du fait qu'il y avait énormément de gravats pour augmenter un petit peu le niveau de la mer, le niveau de la ville.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu pour qu'on imagine quand, je sais pas moi, au 15e siècle par exemple, ça ressemblait à quoi? Il y avait un port dans la ville, je crois. Il était où? Comment c'était de vivre à Caen quand il y avait de l'eau?
Alors, on n'a pas besoin de remonter au 15e siècle, hein, c'est beaucoup plus récent que ça, c'est le 19e. Encore au 19e, on a la vue, on pouvait vivre quand avec sa présence de l'eau. Donc il faut s'imaginer pour les canets, je pense qu'on parle aux canets surtout, mais bon, ceux qui ne le sont pas, vous regarderez sur un plan. Donc il faut s'imaginer devant ce qui est aujourd'hui les nouvelles galeries, les galeries Lafayette, excusez-moi, le Monoprix, le théâtre, la poste, la préfecture. Il faut s'imaginer que là, il y avait un bras de l'Orne, en fait, un bras important de l'Orne qui traversait la ville et qui se passait derrière l'église Saint-Pierre. Et donc, le port de Caen, historique du Moyen-Âge, il se trouvait entre l'église Saint-Pierre et la Tour le Roi. Donc, dans l'espace du marché actuel, mais même plus à l'intérieur de la ville. Et donc, on a des représentations, on voit des bateaux à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'à l'arrière de l'église Saint-Pierre, il y a l'abside, donc ce qui est l'arrière de l'église, qui est très jolie, qui date de la Renaissance, qui se mirait dans ce bras qui s'appelait la Petite Orne, qui traversait la ville. Et sinon, il y avait aussi le Grand Odon, qui se jetait d'ailleurs dans cette Petite Orne, quasiment à cet endroit-là, qui traversait la ville, grosso modo, le passage du Grand Turc, jusque la Gloriette, puis après vers le conservatoire. Donc là, on avait un autre cours d'eau, qui était un vrai petit cours d'eau, qui était l'Odon, en fait, la plus grosse partie de l'Odon, d'où son nom de Grand Odon. Et puis, il y en avait un troisième, qui était un troisième, qui était au niveau de la rue Quincampoix, enfin, dans le quartier, ils sont juste en dessous de la place Saint-Sauveur. Là, il y avait un autre cours d'eau qui s'appelait le Petit Odon, qui passait là, donc qui était un bief. Et ces cours d'eau-là, les petits cours d'eau ont existé jusque dans les années 30. Jusque dans les années 30, d'accord, il y a ça. Et puis, il y en avait un autre qui fermait complètement, entre guillemets, l'île Saint-Jean, qui était au niveau de là où on a le monument aux morts et tout ça. Donc là, il y avait le canal Robert. Et donc, la ville était sillonnée de toute une série de cours d'eau.
Comme Venise.
C'était Venise, voilà.
David a une question.
Il me semble qu'il y a eu un projet qui montrait en fait avec les lignes bleues,
ouais,
et rouges. Alors j'ai vérifié parce que ça m'a, l'autre coup avec Thomas, on n'était pas tout à fait d'accord. Et en fait, à certains endroits, on les voit encore, ces lignes bleues, par exemple vers le Kokomo, et on les voit encore. Alors, c'est bien effacé.
Tu peux nous expliquer ce que c'est,
C'était exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire qu'on visualisait, grâce aux bandes bleues, Petit Odon,
tous les cours d'eau qu'il y avait en dessous,
voilà,
en fait.
Voilà. Okay. Et ça a été fait, je ne sais pas, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant.
Ouais, c'est ça. On avait fait une exposition qui s'appelait La mémoire perdue de l'eau. Parce que,
déjà.
Mais oui, on était déjà sur les mêmes marottes. Et donc, c'était dans ce cadre-là qu'il y avait eu un balisage en ville,
voilà,
qui suivait l'emplacement. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que donc, ces cours d'eau, pour certains, sont canalisés, c'est-à-dire qu'ils ne passent plus. Mais il y en a encore un qui passe. C'est-à-dire que la Petite Orne passe toujours au centre-ville. C'est-à-dire que quand vous vous promenez dans les endroits que j'ai cités tout à l'heure, autour des Galeries Lafayette, et ben, le cours d'eau, il passe en dessous.
Alors Alain, toi tu as travaillé, alors je fais une petite blague à Jonathan, on va refaire une petite CPV avec ou sans jingle, c'est toi qui vois, puisque Alain, toi tu as travaillé sur une trace en fait de ces cours d'eau encore aujourd'hui.
Eh ben oui, j'espère que je ne vais pas être trop redondant avec ce qui vient d'être dit, parce que je me suis intéressé à savoir qu'est-ce qui restait comme dans l'iconographie, les noms, etc., de ce passé de l'eau. Et donc j'ai trouvé Caen, Venise, Normande. Alors, je connaissais Ponton de Mer, Venise normande, mais Caen a été une Venise normande. À l'instar de nombreuses villes d'Europe, Caen a été qualifiée de petite Venise en raison des nombreux cours d'eau, pour la plupart artificiels, qui l'ont parcouru. Avant la fondation de la cité par Guillaume, le bourg et les hameaux voisins étaient installés non pas sur l'Orne, mais autour de l'Odon. Si au fil du temps, le centre de gravité de l'hydrosystème urbain s'est déplacé de Saint-Pierre vers la presqu'île, la ville garde des éléments visibles, le port, le bassin Saint-Pierre, l'Orne, l'Odon, le canal, de nombreux indices et une riche iconographie qu'on peut trouver au musée des Beaux-Arts, aux archives de Normandie, où on voit des tableaux, des gravures, etc., qui nous rappellent le passé de la ville d'eau. J'ai fallu que je la fasse, celle-là. Bien sûr, ce n'est pas au sens thermal. Le passage du Bief, la rue des Teinturiers, le passage de l'Odon, la rue de la Fontaine, la rue du Moulin, la Noé, le canal Robert ou encore La Rigole alimentaire devenue boulevard Maréchal Leclerc ou encore le pont Saint-Pierre en sont des exemples présents ou disparus. De nouvelles activités sont apparues, canoë, pédalo, voile, aviron, plaisance, qui renouent avec le fil de l'eau, un fil de l'eau plus sain pour les habitants, parce que le gros problème du passé, Moyen-Âge, Renaissance de la ville de Caen, ça a été ces marais qui étaient entre, je dirais, Saint-Jean et la prairie, qui étaient des sources de maladies, choléra, etc. Donc, et pour finir, ce que je disais tout à l'heure, un exemple très ancien qui montre bien que les Canets ne se méfiaient pas de leur eau, c'est l'église Saint-Jean, qui, quand elle a été construite, devait être une espèce de Saint-Pierre bis. Et puis ils se sont aperçus qu'en arrivant au premier étage, d'un seul coup, comme la tour de Pise, le porche de l'église s'est incliné. Quand on le regarde d'en face, on voit. Donc ils ont arrêté, ils ne sont pas montés plus haut, parce que sinon là, ça serait complètement tombé. Mais déjà à l'époque, ils n'avaient pas fait suffisamment. Ils pensaient qu'en ayant drainé les marais, ils allaient pouvoir le faire. Mais l'eau, elle va profondément et. Les pierres pèsent très lourd. Et donc voilà, c'est le passé canet déjà ignorait beaucoup les effets de l'eau.
Avec un jingle de fin, merci Jonathan. Justement, comme l'a souligné Alain, autre question, pourquoi ça a été asséché? Est-ce que c'est vraiment pour des raisons des raisons sanitaires, quoi, en fait, comme dans beaucoup de villes d'ailleurs en France, ou on est allé plus loin? Parce que quand on voit, c'est vrai, l'état des bords de l'Orne qui ne sont pas très très sympas, qui ne sont pas très investis, on peut se demander effectivement si l'eau n'a pas été considérée avant tout comme un problème, en fait.
Oui, tout à fait. Alors, comme c'était souligné tout de suite, c'est vrai que Caen est restée une ville extrêmement insalubre, parce que ces cours d'eau qui, sur les photos, sur les gravures, apparaissent de façon extrêmement romantique, avec des gens qui pêchent, des dames qui lavent le linge et tout ça, en fait, c'était quand même des égouts à ciel ouvert, parce que s'il n'y avait pas de système d'égouts à Caen, jusque justement dans ces années, des années 30, donc c'était vraiment très très sale. Et donc le principal problème était les épidémies. Il y en a eu une terrible en 1873, je crois, enfin c'est dans ces eaux-là, qui a été marquée par, il y a 10 000 canets qui sont partis de Caen, parce que c'était devenu insupportable, et il y a eu plus de 500 morts, dont le chef de l'hôpital de l'Hôtel Dieu. Donc c'était quand même quelque chose d'extrêmement... Il y avait le romantisme des photos, et puis il y avait la réalité qui était parfois un peu moins drôle. Alors il y a une petite anecdote qu'on sort souvent, c'est le fait qu'il y a quand vous êtes rue Vauquelin, il y a marqué rue de Laudon. Et elle s'appelait en effet rue de Laudon, et ce sont les habitants de la rue de Laudon qui ont dit... On veut plus s'appeler rue de Laudon parce que c'est comme si c'était pour nous, si on avait la rue des chiottes ou la rue qui pue,
la rue du
choléra et tout ça. Donc, comme à l'époque, on savait faire aussi avec des mots quand on faisait pas avec des faits. Donc, on leur a donné un nom de chimiste, comme ça, ça a pu calmer calmer les ardeurs des habitants. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le. Il y a un mouvement qui s'est achevé donc, dans les années 30. En 36, on a fini d'assainir complètement. Et donc, là, la présence de l'eau est devenue beaucoup moins prégnante en ville. Et les gens étaient bien contents qu'elle n'y soit plus. Et là, on est devenu, par contre, une ville très propre, parce qu'on a eu un système d'assainissement qui est devenu le plus moderne de France. Quand c'est souvent ça, c'est très en retard, on s'endort, et puis tout à coup, fou, 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 on fait un truc un peu foufou. Et puis après, on se rendort. Et donc, on a connu en 44 un événement que tout le monde connaît, bien sûr, ici, qui fait que la ville a été en grande partie bouleversée. Et là, ce qui s'est passé, donc en les années 30, les cours d'eau ont disparu. Et puis, à la reconstruction, et ça c'est vrai pour toutes les architectures de la reconstruction, tous les éléments naturels étaient très peu pris en compte. Et donc, on a utilisé l'Orne comme c'est un passage d'eau. Et puis, on a bétonné tout ça. Et du coup, on s'est éloigné de notre cours d'eau, de notre fleuve qui était présent en ville.
Merci beaucoup Bertrand. Je rappelle que l'exposition donc, concoctée par le CPIE avec notamment un rendez-vous à pas louper, la psychanalyse urbaine. Donc ça commence le 27 juin jusqu'au 2 novembre. C'est à voir à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura une prise de conscience sur cette présence de l'eau et peut-être une relation plus saine, plus intéressant, apaisé. Plus apaisé avec ce passé. Eh bien, merci beaucoup les amis autour de la table, Alain, Thémis et David. On se retrouve dans 15 jours avec une émission que tu présenteras, Alain, sur les majeurs sous tutelle. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes, notamment sur audioblog.arteradio.com. Merci beaucoup Jonathan à la technique et à très bientôt aussi.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie.
On a repoussé les limites là.
Nous invitons les voyageurs à sauter du train.
Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu.
Merci.
Au revoir.